Souvent, j'aime commencer en musique. Or, avec Jonathan Cohen, c'est facile, puisqu'il aime chanter. Il a d'ailleurs incarné au moins deux personnages de chanteurs, avec des textes parfois succincts, mais toujours habités. En tout cas, ça le raconte.
Je n'ai pas de limite. 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 Je n'ai pas de limite.
Surtout tes mics.
Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Vous avez trop de limites. Vous avez des limites.
Il a joué et créé des parodies de personnages ou d'émissions télé déjà entrés dans la pop culture des années 2010. La Flamme, Le Flambeau, Fucking Fred, François Sentinelle. Et voilà que cette semaine, Jonathan Cohen est le personnage d'une comédie pas parodique, mais romantique et fantastique. De celles qui s'inscrivent dans la lignée de coups de foudre à Notting Hill, Ghost ou Quand Harry rencontre Sally. Le film s'intitule L'âme idéale, c'est le premier long métrage plein de charme d'Alice Vial. Jonathan Cohen y est un amoureux pas séducteur, de ceux qui ont un charme fou sans le savoir. Et la québécoise Magali Lépine Blondeau, que vous avez peut-être vue dans l'excellent Simple comme Sylvain, Magali Lépine Blondeau donc, y incarne une femme dupe de rien et prête à la grande aventure néanmoins. Dans l'heure qui suit, il sera donc question d'amoureux au cinéma et du parcours d'un homme pour qui tout a commencé avec un personnage de mythomane, révélateur de sa virtuosité pour l'impro. Je suis devant les bureaux de production de Jonathan Cohen, un petit appart au couloir étroit. Devant la porte, micro en main et ouvert, je frappe trois coups, ou un peu plus, comme au théâtre. Jonathan Cohen dans Totémique, acte 1, scène 1.
Totémique, Rebecca Manzoni. Sur France Inter.
Et ils sont là.
Salut.
Micro, ouais, micro.
Oh putain, merde, non. Ça va, Rebecca, vous allez bien?
Ça va, et vous?
Ouais, très bien. Ça commence d'entrée de jeu?
D'entrée de jeu, ouais.
Allez, welcome. Ouais, vous voulez un peu d'aide?
Pardon?
Vous voulez un peu d'aide? Non, ça va, je vous ai bien chargé. En fait, ouais, c'est ça. Le concept, c'est que tout est enregistré tout le temps. Donc ça, c'est...
Qu'est-ce que vous dites?
Non, arrêtez. Non, je dis tout est enregistré tout le temps.
Non, 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 tout... J'aime bien enregistrer l'arrivée, en fait.
Ok.
Voilà.
Moi, j'ai fait pas mal de pièces radiophoniques, justement, chez France Culture.
Avant de jouer la comédie, vous faisiez quoi? Vous avez eu quelle vie?
Bah, j'ai travaillé dans la vie active, hein, comme on l'appelle, hein, dans le tertiaire. Ouais, j'ai pas été brillant à l'école, mais parce que je crois que je sais pas ce qui se passait. Je pense que, en vrai, je pensais que j'allais avoir le bac, comme ça, parce que j'ai toujours réussi à me démerder en bossant pas trop, en ayant la moyenne. Et en fait, ça s'est arrêté au bac où la vie, elle m'a dit ah, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vas pas l'avoir ton bac. Et ça a été un petit drame. Mais bon, j'ai fait de l'immobilier, mais c'était nul. J'ai vendu de l'imprimerie, mais j'étais nul. J'ai travaillé dans des boutiques, j'ai fait magasinier, j'ai fait plein de trucs, et puis j'ai vendu des fenêtres. Et là, pour le coup, ça a plutôt pas mal marché. Enfin, je me suis dit, ah, je suis capable de faire quelque chose de ma vie. Mais j'ai pas fait ça, j'ai fait ça 8 mois, un truc comme ça, avant que... mon meilleur ami me dise viens, lui il prenait les cours de théâtre et il m'a dit de venir. J'ai été l'accompagner au cours, j'étais habillé en costume avec ma grosse mallette de fenêtre. Et c'est marrant parce que je voyais des étudiants, moi je me prenais pour un adulte, j'étais là, allez jeune. Vraiment, mais je l'ai regardé un peu de haut, genre faire des scènes alors que moi je travaille dans la vie active. Et sauf que je les ai regardés, j'ai pris un... Oh, c'était un cours d'impro et je les regardais comme ça. J'étais fasciné, j'avais qu'une envie, c'était de monter avec eux sur scène et participer à ça et jouer avec eux. Et puis après, moi, j'étais plus incapable de vendre quoi que ce soit parce que c'était fini en fait. Dans mon cerveau, c'était waouh, c'est ça que je dois faire, je crois. Et ça n'a pas été évident parce que c'était un choix quand même, c'était pas rien. Il y avait un petit monde qui me tendait les bras où il y avait une possibilité de quelque chose et un autre monde que j'ai eu un flash, mais avec zéro garantie de rien. De toute façon, les métiers artistiques, c'est des métiers, jusqu'à la fin de notre vie, c'est sans garantie.
Donc, quand vous avez fait ce choix, j'imagine que vous avez flippé.
Ouais, il y avait une autre phrase après ça,
non.
Avant que je dise quelque chose.
Non, c'était ça.
Ok. Ouais, mais en même temps, la candeur, le candide. Je suis rentré là-dedans, je me suis pas posé de questions, je repartais à zéro, plus une thune, plus rien. Et après, ben, on m'a dit, dis donc, t'as du talent. Première fois que j'entendais ça. Et j'ai continué.
Et vous avez gagné votre vie comme ça tout de suite ?
Ben, du tout. Ah non, non, avant que je gagne ma vie, ça a pris un temps fou. Non, non, j'ai toujours eu des petits boulots à côté. Puis j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui a cru en moi. Donc moi, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui étaient avec moi, qui étaient derrière et qui me disaient, vas-y, allez, bon, même si c'est n'importe quoi, vas-y. Et donc... Non, non, j'ai mis longtemps avant de gagner ma vie. J'ai travaillé après au conservatoire, je travaillais dans les cafés, dans les restos. Mais c'était cool aussi, c'était génial. C'était trop bien, je peux pas me plaindre. Même ça, c'était cool. Puis j'ai fait plein de petits rôles, de petites choses comme ça. J'ai joué pendant très longtemps le bon pote.
Pour quelle raison, vous savez ça ? Parce que c'est vrai que vous avez joué pas mal de rôles de bon pote.
J'ai joué pas mal de bon pote. Parce que je pense que j'étais là. Sympathique. J'incarnais une espèce de loser sympathique qui était... En plus, il y avait beaucoup de films avec cet archétype-là. Le héros qui était un peu beau gosse, qui avait des problématiques de beau gosse, et moi, j'étais le loser sympathique à côté. Mais ça m'allait. J'étais heureux
d'être au second. Parce que le bon pote, c'est forcément des seconds rôles.
Deuxième rôle, mais j'avais fait quatrième, cinquième, sixième rôle, dixième rôle. En fait, j'étais dans un tel bonheur de travailler. Parce que pour moi, travailler dans nos métiers qui sont quand même pas les plus simples, c'est une bénédiction, en fait, de réussir un casting. C'est pas rien, quel que soit le rôle. Alors après, bien sûr, il y a les frustrations de ce qu'on aimerait donner et ce qu'on a la possibilité de donner dans les films. C'est les carrières, c'est comme ça, c'est fait partie du jeu, mais il y a eu quand même beaucoup de bonheur là-dedans. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Kian Kojandi et Navo, qui m'ont invité à...
Bref.
Dans Bref, et puis après, ils m'ont invité dans Bloqué. Avec Orelsa Négringe, et ça a changé ma vie, littéralement. Ça l'a changé.
On se fait chier, non ? Oh putain, j'osais pas t'en parler. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça te dit, on appelle Serge Lemito ?
Amorce, d'un épisode de la série Bloqué, réalisé par Kian Kojandi et Navo, avec un duo de comédiens sur canapé, à savoir Orelsan et Gringe. Cet épisode de Bloqué date de 2015. Jonathan Cohen y fait sa première apparition en Serge le mytho, avant que ce personnage ait une série rien qu'à lui. Pour vous resituer le récit qui suit, on a Serge le mytho, donc, qui rentre de Thaïlande, dont il connaît très bien le ministère de la Culture, évidemment, et au hasard d'une errance dans un quartier de Bangkok, Serge sauve un enfant d'une bonne douzaine de pervers patibulaires, car, heureusement...
J'ai toujours une petite cornemuse derrière moi, tu vois. Je commence à la sortir. Là, mec, j'ai mes deux aigles qui arrivent, que j'ai éduqués depuis que je suis gamin, tu vois. Je leur donne des bouts de beefsteak, des bouts de trucs. Mes deux aigles, ils arrivent. Un qui arrive là, un qui arrive là. J'ai dit, ah ouais, voulez-vous la raconter ? Vous voulez jouer les bonhommes ? Là, mes aigles, ils arrivent. Oh, ils les croquent un peu, nanana. Il commence à me faire une clé, je commence à étouffer. Heureusement que j'ai passé du temps à Hollywood, frère. Et après, tu vois, on les a tous défoncés, le gamin, les parents du gamin, ils viennent me voir, ils me disent, vous êtes notre sauveur. Comment vous appelez-vous ? Je dis Serge. Ils ont rebaptisé le petit Serge, alors qu'il s'appelait Tangpo, un truc comme ça, tu vois.
Alors, au-delà du succès de Serge le mytho, qui était un personnage de Bloqué, mais qui est devenu une série à part entière, qu'est-ce que ça a changé dans votre vision du métier et dans votre façon de le faire, ce métier ?
C'est intéressant, cette question, parce que, en fait, moi qui avais quand même déjà un petit peu de carrière avant que ça arrive, ça, dans l'équation Serge...
Ouais, parce que vous avez quoi à ce moment-là ? Vous avez 30 ans ?
36 ans. Ah non, j'ai roulé ma bosse avant. Non, j'avais pas 30 ans, j'avais 35, 36 ans. C'est pas rien, 35-36 ans. Et avant, j'arrivais à gagner ma vie avec, tranquillou. Mais j'étais heureux de ça. Non, par contre, ce que ça m'a montré, ce que ça m'a fait comprendre, c'est à quel point la réception chez le public d'un projet, quel qu'il soit, c'est pas entre nos mains. À quel moment, moi, j'aurais pu croire une seconde que ça allait toucher les gens? Jamais. J'arrive là-dedans, on me demande d'improviser, j'improvise, je fais le truc, salut tout le monde, je pars en vacances, je m'éclate, je reviens, il a monté 4 épisodes avec ce que j'ai fait, j'ai dit ah bon, et ça se lance, et puis d'un coup, bon bah, y a un écho.
Et l'impro, c'était, c'est un truc qui vous était naturel, tout de suite?
Oui. Moi, j'aime faire le con dans la vie, en vrai, j'improvise tout le temps avec des copains, des persos, des trucs, en fait, ça reste un moteur quand même. Et on joue des situations, on joue des persos, mais des trucs pour délirer. Ça nous fait marrer. Du coup, quand on m'appelle pour faire ça, surtout Kian, qui à une époque vivait chez moi parce qu'il n'y avait pas d'appart. Et donc, quand il était à la maison, on rigolait, on faisait des impros, des conneries, quoi. Et une fois, j'avais fait un personnage de mytho. Et il me dit, tu veux pas refaire le personnage de mytho dans le truc? Bon, ben, oui, avec plaisir.
Mais il y a un côté dans l'impro comme ça, où c'est comme une transe, quoi.
Ben alors, c'est littéralement une transe. Mais assez fou, parce que je n'ai aucun souvenir. Je me souviens quand il m'a montré le premier épisode, qui était moi en Thaïlande, là, avec les aigles et tout. Oh, mais j'ai dit ça, mais je me souvenais même pas avoir dit le quart de ce qui s'était dit. Je ne me souvenais de rien. Je me souvenais juste d'avoir passé un bon moment et avoir pleuré de rire sur l'iPhone Serge. Voilà, c'est tout ce dont je me souvenais. Donc pour moi, je voyais un énergumène s'agiter, dire n'importe quoi, et je dis, mais quoi, quand est-ce que j'ai dit ça? Donc en fait, oui, ça s'apparente un peu à la transe, en fait. C'est quelque chose qui m'a dépassé. Et c'est comme si on avait ouvert un robinet, et ce robinet-là, il attendait que de couler depuis très longtemps. Et donc, du coup, c'était une vieille maison, et du coup, on réactive l'eau. Il y en a de l'eau, je peux vous dire.
Mais c'est ça qui est fascinant quand on regarde. Et on se dit, mais où ça va?
C'est ça qui est fou. Mais moi, je sais pas, la seule chose qui est un peu consciente à cet endroit-là, c'est la volonté de surprendre la personne qui est à côté de moi. Ma seule ambition, c'est d'avoir les idées les plus folles pour que les deux ils soient morts de rire. Et que je suis là à chercher une espèce de chute. Tout d'un coup, il y a le cerveau qui se met en branle. Ok, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 tac. Et d'un coup, l'idée la plus débile, c'est celle qui gagne pour essayer de les surprendre. Donc c'était un exercice génial.
Vous savez d'où ça vient, ça? Cette capacité à justement improviser comme une transe et... un truc qui s'auto-nourrit.
Non.
Vous savez pas?
Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Parce que je pense qu'on perd un peu de la magie, en fait, justement, de ce mystère-là. Ou même pour moi, c'est mystérieux, en fait.
Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon roi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon roi.
La grande Élie Médéros, toi, toi, mon toi.
Elle est fourmi,
le bus a freiné et ça s'est passé. Vous étiez dedans?
Non, moi j'étais dans un taxi qui était juste à côté. Et c'est le conducteur du taxi qui a appelé les urgences. Puis après, je vous ai vu, quoi.
Extrait de L'âme idéale, premier film d'Alice Vial en salle depuis mercredi avec Jonathan Cohen et Magali Lépine-Blondeau. Elle est Elsa, il est Oscar. À la suite d'un accident, elle est blessée et lui est mort. Elle le voit et lui parle parce qu'elle a ce pouvoir, côtoyer des morts avant qu'ils ne partent définitivement. L'âme idéale est une comédie romantique, fantastique et on y croit. On croit à ce qui se tisse entre Elsa, qui a renoncé aux rencontres, et Oscar, qui est mort, mais qui ne le sait pas encore. On y croit grâce à ces deux-là. Oscar est chavirant, sans le savoir, là encore, drôle, à la fois confiant et peu sûr de lui, personnage masculin pas si fréquent dans la comédie française. Elsa n'est dupe de rien et se dit pourquoi pas. Les voici donc, après l'accident, dans sa salle de bain, à lui, pour la soigner, elle.
Ciseaux.
Là.
Je vais le faire, ça. Je suis médecin.
Ok.
Vous emballez pas. Parce que techniquement, j'ai jamais guéri personne.
Vous êtes un très mauvais médecin. C'est ça que vous êtes en train de me dire?
Parce que je travaille en soins palliatifs.
D'accord.
Les patients sont au stade terminal.
Pas bien, oui.
Et je vous ai angoissé en une phrase.
Non, pas du tout, non. Non, c'est juste que j'espère que j'aurai jamais affaire à vous. Enfin, à vous, dans votre service.
J'avais compris.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiétaient dans le rôle d'Oscar?
Oui, c'est un film qui est assez casse-gueule, en vrai, en apparence, parce que c'est un type de film avec, vous savez, des fantômes, enfin, je veux dire, en plus, une histoire d'amour entre une personne qui voit les morts et un...
Et un mort.
Et un mort qui ne sait pas qu'il est mort. Oui, ça peut être tout et n'importe quoi comme type de film. On aurait pu tirer ça dans de la comédie, vu qu'il y a pas mal de situations qui s'y prêtent, mais justement... J'ai mis du temps à dire oui parce que je voulais voir jusqu'où, je voulais voir ce qu'Alice Vial, la réalisatrice, voulait véritablement raconter à travers cette histoire. Et quand j'ai vu qu'elle a réussi à aborder des thématiques et des questionnements qui, moi, me touchaient personnellement, est-ce que j'ai assez vécu? Est-ce que j'ai assez aimé? Est-ce que j'ai, je sais pas, est-ce que j'ai donné assez? Est-ce que j'ai été assez moi-même? Est-ce que j'ai assez vécu ma vie? Enfin, voilà, ce genre de choses, moi, qui m'interrogent en permanence, comme je pense beaucoup de gens. Et c'est des sujets, moi, que j'avais envie de donner dans un film.
Est-ce que dans ce film, il y a des choses que vous n'aviez jamais faites?
Bah, jouer un mort, déjà. Je pense que ouais. Ça, c'est bingo. C'est quand même pas rien de jouer quelqu'un qui se rend compte qu'il est mort. Enfin, il y a des choses qui sont difficiles à donner parce qu'on les a pas vécues, Dieu merci. De les donner comme ça, d'essayer de trouver les bonnes émotions justes pour ce personnage-là, c'était pas rien.
Mais j'ai l'impression que c'est la première fois que vous interprétez un amoureux, un gentleman,
oui.
Sans les ficelles de la comédie.
Oui, c'est la première fois que j'assume une romance, on va dire.
Que vous assumez, vous dites.
Oui, parce que... parce que c'est... Comment dire? C'est pas forcément un endroit où je me vois personnellement... L'amoureux transi. Enfin, d'ailleurs, c'est des rôles que j'ai même jamais joué dans le répertoire du théâtre ou quoi que ce soit. Même les rôles que je pouvais interpréter quand j'étais à l'école ou même dans les pièces de théâtre, j'allais jamais vers ça. Comme si je ne me l'autorisais pas. Et j'ai mis beaucoup de temps aussi à cause de ça, parce que je me suis dit, mais tu veux pas prendre quelqu'un d'autre qui correspond peut-être plus à cette figure de... Elle m'a dit non, je pense que c'est intéressant si c'est avec toi et ça fait son petit bout de chemin. Enfin... Petit bonhomme de chemin, comme on dit. Mais oui, c'est une partie de moi que je j'assume pas trop. Donc là, voilà, effectivement, elle est beaucoup plus assumée dans ce film.
C'est-à-dire l'histoire d'amour au premier degré, quoi.
Oui. Non, mais parce que je suis assez pudique. En vrai, je suis assez pudique comme garçon et j'avais du mal à... Non, mais c'est vrai, comment vous dire, toujours mieux quand c'est les autres qui le font à cet endroit-là. Mais je suis trop content d'avoir abordé ce registre-là. Même moi, ça m'a fait grandir à un endroit et à assumer des choses.
Venons-en aux choses sérieuses.
Nouvel extrait de L'âme idéale avec Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen. Un homme et une femme, Oscar et Elsa, qui s'offrent une échappée amoureuse. Le temps de quelques jours, Oscar et Elsa agissent comme s'ils étaient vivants, tous les deux. Ils font l'amour, chantent dans un bar karaoké, entrent dans une salle de mariage, et là ils sont assis dans le public, s'imaginent devant monsieur le maire, un homme et une femme qui jouent à on dirait que.
Monsieur Jules Quentin Morin.
Oscar Lucien Adam Blum.
Acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Laure Chassaigne.
Elsa Louisa Tissot.
Oui.
Madame Laure Chloé Chassaigne.
Elsa Louisa Tissot.
Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jules
Oscar
Quentin
Lucien
Morin.
Adam Blum.
Oui.
Oui.
Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare donc unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée.
Vous êtes facilement dans le moment quand ça tourne. C'est tout de suite, c'est on-off pour vous.
Quand on crée les bons dispositifs avant, c'est-à-dire quand on se concentre bien avant, et franchement, on a marché beaucoup en trio avec Alice, Magali et moi. On avait bien cartographié le film et ses moments et ses tournants qu'il fallait pas louper, tout ça, et on était très au clair de ce qu'on devait jouer. On a travaillé beaucoup avec la musique pour se mettre dedans. Mais la musique qu'on mettait tous les deux avec Magali, même Alice, nous mettait de la musique en ambiance pour que tout le monde se mette au diapason de ce qu'on devait jouer. Ça nous mettait dans un niveau de concentration qui était le bon, et émotionnellement, ça nous mettait au bon endroit.
Au début, quand vous avez commencé à jouer, vous vous projetiez dans quel type de rôle? Quand on débute, on s'imagine toujours.
Oui, bien sûr. J'ai eu plusieurs phases. Quand j'ai commencé, quand j'étais au conservatoire, moi, je m'imaginais un peu en héros russe. Héros russe? Ouais, genre Tchekhov, l'héros tchékovien, tout ça. Moi, c'est Platonov, Ivanov. Enfin, j'étais très amoureux de ça. Et puis après, les héros shakespeariens, Hamlet. Rétrospectivement, je sais pas si j'ai tant fait de comédie que ça au conservatoire. C'est après que c'est venu, parce que j'ai toujours aimé la comédie très très fort, mais conservatoire, c'est quand même un lieu où on peut explorer des choses peut-être qu'on ne fera jamais après, avant de les retrouver. Donc il nous poussait à tout explorer, et en vrai j'ai eu cette chance-là d'explorer beaucoup de choses étant étudiant.
Et vous êtes arrivé au conservatoire dans quel état d'esprit? En vous disant, je vais jouer Tchekhov et...
Du tout, non, en fait, j'ai découvert ces textes-là au conservatoire. Non, moi, je suis arrivé, j'étais un ignare, j'étais presque le Schpunz. Non, mais dans le sens où j'étais un peu vierge, j'avais que 2 ans de théâtre dans les pattes avant. En fait, je m'amusais tellement dans les cours. En fait, je me rendais pas compte que c'était un métier. Et je suis arrivé avec cette candeur-là, avec cette liberté-là. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je l'ai eu. C'est parce que c'est dingue, mais en fait, ça, je m'en foutais un peu. En fait, moi, il y avait un petit concours. Je voulais savoir ce que je valais un peu là-dedans. Et puis, si je l'avais pas, c'était pas grave. Si je l'avais, je pensais même pas, en fait. J'avais pas d'ambition réelle.
Et c'est hyper précieux, ça.
C'est over précieux. On va pas se mentir. Je pense que ça fait partie des secrets de vie. Et il y a cette phrase qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » C'était littéralement l'incarnation de ce que j'étais. C'est-à-dire que je ne savais pas, mais je l'ai fait. Et du coup, les gens disent « Mais te rends compte, t'as eu ça ?» Je fais « Ah ouais, c'était si important que ça ?» Bah oui, oui. Et je pense que si j'avais su, j'aurais jamais eu. J'ai trop traqueux, trop anxieux pour ça. Et voilà, c'est là-bas que je me suis cultivé véritablement. Même si la première année était dure, parce que c'est... Je me rendais compte des gens qu'il y avait là-bas et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? En vrai, ben oui, parce qu'en fait, c'était essentiellement des gens qui rêvaient d'être là, qui avaient fait le cursus pour. Bac théâtre, tutti quanti, ils connaissaient tout et moi, je connaissais rien.
C'est comme si au cours de cette première année, vous n'aviez pas vraiment les codes de tout.
Exactement. Ouais, j'avais pas les codes. Et surtout, je complexais de pas avoir les codes. Mais je suis assez content parce qu'en deuxième année, j'ai véritablement, littéralement changé d'état d'esprit. J'ai dit plus jamais une année comme la première année. Je vais changer moi et je me suis cultivé avec joie.
Vous avez appris le goût des textes,
ouais.
Le goût des mots.
Mais si.
Pourquoi vous dites on dirait pas?
Non, mais parce que c'est sûr que au vu de ce que j'ai fait après, enfin, quand on rentre dans la comédie, c'est très marrant, mais. C'est des choses, forcément, on voit pas le background, on voit de la comédie, et c'est trop bien, et puis c'est de la comédie de personnages, et puis Moi, j'aime mon parcours aussi parce qu'il est atypique. Et que, on va dire que mon amour pour les textes, mon amour pour le théâtre, qui peuvent être, on va dire, paraître opposés à ce pourquoi les gens me connaissent, ça, moi, ça me va très bien.
Olivia Dean, nouvelle voix de la soul anglaise, Baby Steps.
Funny in the review. You're closer than you are. And truth, what was a ball? I used to be near you. When I'm down to 10%, and you plug me straight back in. Now there's no one to text when the plane lands, or to call when it's taking off. Right there, baby, stay. Taking but baby still.
Je n'ai pas de limite sur Totemic. Je n'ai pas de limite sur France Inter. Je n'ai pas de limite. Jonathan Cohen, Rebecca Manzoni. Je n'ai pas de limite.
Bien joué.
Alors, vous disiez que vous aviez joué un paquet de bons potes.
Ouais.
Après, il y a un
paquet de débiles.
Mais en costume.
Toujours. Mais c'est génial de jouer des débiles. C'est génial, c'est génial. Quelle, oh, quelle joie de jouer des débiles.
Tu es lesbienne, Marc?
Tout le monde est lesbienne, Marina.
D'accord. Tu sais pas ce que ça veut dire, lesbienne?
Non. Voilà, non.
Début d'extrait de la série Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra, parodie de Koh-Lanta, créée par Jonathan Cohen, Jérémy Galland et Florent Bernard. Jonathan Cohen est Marc, un homme qui a quelques points communs avec un autre personnage qu'il a interprété qui s'appelle François Sentinelle, il en sera question plus tard. Présentement, suite du dialogue entre Marina et Marc, Jonathan Cohen et Géraldine Nakache dans Le Flambeau.
Tu sais pas ce que ça veut dire, lesbienne?
Non, voilà, non. Mais toi, tu connais tous les mots du dictionnaire, peut-être? Tu connais le mot bicentenaire?
Ouais.
Eh ben, tant mieux pour toi, alors.
Lesbienne, ça veut dire deux femmes qui s'aiment et qui font l'amour.
Non, ça n'existe pas.
Ça existe?
Non, ça n'existe
ça
pas.
Ça existe.
D'accord. Alors, qui change les ampoules? Qui dort du meilleur côté du lit? Qui a un meilleur salaire?
D'accord. Bon, écoute, j'ai pas le temps. Tiens, regardez sur Internet.
Impossible.
C'est un immense débile, Marc. Et en vrai, moi, le... En fait, ce qui est magnifique, c'est que le débile, et ça, c'est un peu un code de comédie, le débile peut tout dire. Il n'a pas conscience du monde tel qu'il est, il le voit que travers son prisme. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il peut tout dire, mais il y a, Dieu merci, toujours des gens pour le rappeler à l'ordre, non, on ne peut pas dire ça, non, ça n'existe pas. Et c'est cette dynamique de comédie, moi, que j'adore, parce qu'elle est, elle permet d'être très libre et très drôle.
Et puis, elle permet de dire des choses qui vont au-delà de la comédie. C'est-à-dire que le personnage de Marc ou de François Sentinelle, qui ont quand même quelques points communs,
bien sûr, bien sûr.
C'est quand même des gars qui sont des mecs à l'ancienne, on va dire.
Complètement. Qui ont une vision, en vrai, des films des années 90-2000, qui est vraiment un autre type d'homme, mais avec lesquels ils ont été élevés. Qui pense que la masculinité, c'est ça, être un homme, c'est ça. Et en vrai, c'est être Chuck Norris, un mélange de Chuck Norris, L'Arme Fatale, tous ces films, Miami Vice, ils ont été élevés dans ça. Et ils comprennent pas que le monde a bougé, changé. Et ils le voient pas. Et c'est ce qui crée justement la friction entre eux et leur environnement. Et ça, c'est quand même assez jubilatoire de voir ça. De voir et en même temps de pouvoir parler de ce type de cum, de mec, pardon, et de les voir se confronter à toute la société, quoi.
Ça veut dire quand même que c'est très, très écrit. Ce sont des séries très écrites.
C'est des séries très écrites, mais alors, encore une fois, moi, je tiens à saluer les auteurs qui sont avec moi, parce qu'en vrai, je travaille toujours en équipe, et ce qui est magnifique avec une équipe, et c'est pour ça que la comédie, ça s'apprête, l'écriture en équipe, parce que c'est l'émulation. Et on passe la journée dans le bureau à essayer de se faire rire. Moi, je peux improviser des choses, un autre va rebondir là-dessus. Et on essaye de construire quelque chose de drôle ensemble, qui est très écrit, effectivement. Et après, il y a ce qui se passe quand on est sur le plateau. Et moi, je trouve que ce qui est assez génial, c'est quand on utilise la matière qu'on a très écrite, et qu'après, on rebondit dessus. Ça reste un support, le texte. C'est pas sacré pour moi, un texte. À part les grands textes. Bon, pour le coup, il faut se plier à ça. Mais sinon, un texte, pour moi, c'est un magnifique support pour voir si on peut pas appeler encore plus de créativité, plus de trollerie, plus d'instants, plus de présents, et d'essayer d'amener les gens dans cette présence-là, en fait. Et ça marche, parfois, ça marche, c'est super.
On avance bien, Marc.
Vraiment, mais genre, on n'avance pas du tout dans le texte, c'est catastrophique.
Coulisses du tournage du Flambeau entre Marc et son psy, Jonathan Cohen et Pierre Ninet, qui tentent plusieurs prises.
Vous voulez le rencontrer ?
Non.
Vous voulez le rencontrer ?
Non.
J'entends rien, vous voulez le rencontrer ?
Non.
Vous voulez le rencontrer ?
Non.
J'entends rien, vas-y.
Moi je fais le nom.
Comme la fête. Ouais. Vous voulez le rencontrer ?
When the beat drops.
Stop, Marc. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là?
Je sais pas, vous me faites danser.
Moi.
Et pendant que vous dirigiez, je sais plus si c'était La Flamme ou Le Flambeau, vous êtes monté sur scène dans le même moment. Vous avez fait du théâtre pendant l'écriture de la série, je crois.
Ouais.
Puisque une metteuse en scène qui s'appelle Lorraine de Sagazan vous a appelé pour jouer dans Maison de Poupée d'Ibsen.
Ouais.
En fait, elle m'a appelé. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On se connaît depuis le conservatoire. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit Jo, écoute, je sais que tu vas me dire non et tout, mais voilà, j'aimerais que tu fasses un remplacement pour 8 dates, de remplacer Romain Cotard, qui est un acteur exceptionnel, voilà, dans la Maison de Poupée. Je lui dis oui, quand ? Bah, c'est la semaine prochaine, c'est une semaine de répète et on joue. Je fais oui, ok, je le fais. J'avais tellement envie de théâtre que j'ai dit oui sans réfléchir. Et effectivement, il y a eu une semaine de répète. Je suis rentré le mercredi d'après, j'étais sur scène et je jouais. Le deuxième rôle principal. Mais c'est, voilà, l'envie a pris le pas sur la peur, pour le coup. C'était short, mais cette adrénaline-là, ce risque-là, me plaît. J'ai peur du saut dans le vide et en même temps, je suis fou du saut dans le vide.
Vous le recherchez ?
D'une certaine manière, oui. Je le cherche parce que c'est l'émotion, l'adrénaline que je ressens. Il n'y a pas de comparatif. Même quand je fais, par exemple, Fucking Fred et que je chante devant 40 000 personnes ou que je dois faire un concert en 5 jours et de le jouer devant des gens, bah, j'ai 5 jours pour le faire et je me lance dans le vide. Bon, bah, c'est des sauts dans le vide. Ça, je ne peux pas vous expliquer. Il faut être un peu, je pense, inconscient, débile aussi. Que ça se plante ou que ça marche, il y a ce saut. Et ce saut-là, bah, ce risque-là, moi, il me plaît.
Oh my God! Love you! Salut!
En 2019, Orelsan et Jonathan Cohen inventent Fucking Fred, un faux chanteur à l'accent germano-brésilien qui déboule sur scène pendant quelques dates de la tournée d'Orelsan. 6 ans plus tard, le rappeur, son équipe et Jonathan Cohen inventent des chansons avec des titres comme Je dis n'importe quoi, qui est très fidèle au programme, et les gars vont jusqu'à imaginer donc un concert de Fucking Fred devant 40 000 personnes à la Défense Arena. Ce faux chanteur et les vrais inventeurs ont fait l'objet d'un documentaire qui s'intitule Fucking Fred,
comme un léopard. Dans l'extrait qui suit, Jonathan Cohen, débarrassé de son personnage, est saisi à sa sortie de scène.
C'était fou. C'était fou. C'était surréaliste. Mec, ils étaient avec Wham. 40 000 personnes avec Wham. Ouais, man, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je peux faire tous les films du monde, tout ce que tu veux. Je peux jouer tous les rôles. Jamais je ressentirais ce que là je viens de ressentir. Je suis désolé, je suis encore en train de trembler, mais c'est ça ma vie. C'est ça ma vie.
Ah. Dans le documentaire, il y a des moments où j'ai vraiment peur. Mais vraiment, vraiment peur. Où je me dis, qu'est-ce que je fous là ? En fait, voilà, à un moment donné, je me dis, pourquoi quel intérêt ? Mais pourquoi, en fait ? Parce que moi, je suis quelqu'un qui a peur énormément, qui est très anxieux, comme tout le monde, en fait. Mais du coup, d'essayer de dépasser ces peurs-là pour accéder au vide ultime, qui est, pour le coup, moins effrayant que la peur anticipée, et dans le vide, en fait, bah, je me sens bien.
Mais c'est ça qui est marrant. La façon dont vous en parlez là, quand même, ça associe ce moment à un saut en chute libre.
Oui, oui, littéralement. Littéralement, et puis il n'y a pas de parachute, dans le sens où le parachute... Bah c'est quoi ? J'ai encore oublié, j'ai fait 7 chansons en 5 jours. Bon, bah évidemment que je connais aucune parole. Encore une fois, que je me lance comme un débilos là-dedans. Ça va tout le monde, avec un accent mi-brésilien, mi-allemand. Rien ne veut rien dire. Je suis habillé comme je sais même pas vous. Il n'y a même pas de mots pour décrire comment je suis habillé. Et je me lance face à des gens qui me connaissent à peine. Et ils voient un fou sur scène. Mais... On vous expliquait qu'à partir d'un moment donné où je suis rentré sur scène avec ma petite voiture, il y a quelque chose qui s'efface et on accepte le vide et on accepte le présent. Et là, il se passe des choses incroyables. Et à un moment donné, je voulais plus partir, comme d'hab. C'est-à-dire que je pouvais rester encore 8 heures à chanter n'importe quoi et à parler avec les gens. Comment vous dire ? Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme ça. En fait, la peur du vide est plus effrayante que le vide en soi. Voilà, ça, c'est là.
Et puis, ça s'est soldé par des succès, par une affection du public, même.
Ben, c'est génial quand ça fait marrer. Après, la comédie, c'est ce qu'il y a de plus clivant. Le drame est beaucoup moins clivant que la comédie. La comédie, chacun a son degré de ce qu'il fait marrer ou pas. Et personne n'a tort, et personne n'a raison. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est quand même d'essayer de se mettre en danger à cet endroit-là pour pas donner quelque chose de vu, déjà vu là-dessus, quitte à se prendre un mur. Au moins, j'aurais tenté ça, voilà. Et je sais que ça a plu à des gens parce qu'ils sont friands de ça et qu'ils disent « Waouh, c'est trop cool !»
Il l'a fait.
Il l'a fait, et puis même les endroits de débilité dans lesquels ils se mettent les deux, cette fausse mise en abîme où tout est faux, évidemment, et en même temps, tout est vrai. Donc, moi, c'est des choses que moi, j'aimerais voir en tant que public. Donc, ces choses-là, on essaye de les faire.
Et il y a aussi, chez vous, un certain goût pour la chanson, quand même.
Mm-hmm. J'ai chanté dans tous mes trucs.
Mais oui, c'est vrai.
Ouais, mais j'aime ça, j'aime chanter. Mais j'aime chanter des bêtises, avec de la voix.
Extrait de « Est-ce que tu regrettes ?», chanson de François Sentinelle, personnage de flic brutal mais aux ambitions de chanteur de charme, interprété par Jonathan Cohen en 2023.
Est-ce que tu regrettes ? Moi pas, même pas du tout. Est-ce que tu regrettes ?
J'adore.
Moi, absolument pas.
Je crois que j'adore.
Pas du tout. C'était à refaire, je referai tout.
Il y a aussi quand même toute une série de codes.
Je changerai sans rien changer à ma vie.
La façon de bouger.
Je resterai qui je suis.
Les intonations vocales dans le chant même, comme vous faites. Tout ça, c'est quand même... C'est un des trucs que vous avez très, très précisément observé.
Oui, et puis je pense qu'il y a une partie de moi qui adore chanter comme ça. Un peu ringard et tout. Et j'adore. Je crois que j'adore.
Dit-il avec une voix presque murmurée.
Ouais, je crois que j'adore. Et dans les karaokés, je suis pas le dernier à pousser la chansonnette. J'aime ça. Moi, ça me fait marrer. La chanson française, ces textes-là, à chanter dans les karaokés, moi ça m'éclate. Et en vrai, je pense que je suis pas le seul, je pense qu'on est beaucoup à aimer chanter ça, la variette.
Et avec des gestes qui illustrent.
Exactement.
Les paroles.
Les paroles, bien sûr, mais c'est d'autant plus fort.
Les larmes, on fait des larmes avec les doigts sur la joue.
Il y a le son et l'image, et c'est très important.
On va écouter votre tube.
Lequel ?
Ah, vous en avez choisi un pour Totemic, en tout cas.
C'était quoi ?
Ah !
Ah oui, ça y est, joueur. Ouais, bien sûr.
Pour Totemic, Jonathan Cohen a choisi le chanteur italien Lucio Battisti.
Ancora tu.
Ancora tu.
Non mi sorprende, lo sai. Qu'est-ce que j'ai écouté ça ? Ancora tu. Pam pam. Ancora tu, encore toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est... ça symbolise une époque où je travaillais dans les restaurants. Je travaillais dans un restaurant qui s'appelait le Café Burke, dans le 18e. J'avais quoi? J'avais 23, 24 ans. Et pour moi, c'est la découverte d'un Paris que je connaissais pas, Paris... C'est les débuts de la bistronomie, c'est les débuts de plein de choses qui n'existaient pas à l'époque. Et en fait, par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé dans cette mouvance de gars avec leur vin nature, avec des nouvelles cartes, avec on prend un bistrot et on en fait un étoilé, enfin... Et encore à tout, c'est vraiment la chanson qu'on passait à la fin du service. Et j'adorais le mood où on était avec les clients, tout le monde était là et on se mettait sur les tables et on chantait cette chanson et... En tout cas, moi qui étais tout jeune et tout, j'avais les yeux qui... Il y avait plein d'étoiles là-dessus parce que je connaissais pas ça. C'était très parisien et je ne... C'est la première fois que j'avais accès à ça, en fait. D'être dans l'endroit cool de cette
base. Branché, comme on disait au XXe siècle.
Ouais, mais sans savoir, en fait. Et encore une fois, l'ignorant, j'ai eu cette chance-là de me retrouver avec ces gens-là, à cette période-là, et vivre ce Paris-là à cette époque-là où c'était vraiment un petit âge d'or aussi de la fiesta.
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous.
Ailleurs.
Oblez-moi.
Extrait du nouvel album d'Orelsan.
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oblez-moi. J'ai rien demandé à personne, juste éteint mon téléphone et j'ai tracé. Maintenant ça fait tut 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 quand vous m'appelez. Plus j'imaginais l'avenir et plus j'avais l'impression de voir le passé. Quand on peut que subir, des fois faut juste s'en aller. Goodbye. Adieu les vieux potes toxiques, j'me casse. Goodbye. Adieu mon pays, merci, goodbye. J'ai un enfant à élever, j'peux plus faire du sur place. J'ai plus de temps à perdre dans vos problèmes de base. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oblez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oblez-moi. Et je les entends déjà dire que je suis parti sans prévenir, je les ai lâchés. Dès qu'ils trouveront quelqu'un d'autre, un sûr qui rejetait la faute, ça va passer. En vrai, je les ai attendus toute ma vie, mais jamais rien n'a changé. Plus je voyais ce qu'ils devenaient, moi je voulais leur ressembler. Goodbye. Adieu les drames, les gossips, je me casse. Goodbye. Adieu les news dépressives, goodbye. J'ai une famille à aimer, faut que j'y perde de l'espace. Mon cœur est limité, je dois faire de la place. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oblez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oblez-moi.
Jonathan Cohen est dans Totemic jusqu'à 10h. On va terminer avec le son que vous avez choisi.
Ok.
Qui est assez inattendu.
C'est quoi? Ah oui, le son des gens qui m'ont accompagné.
Oui, c'est le club Dorothée. Alors, en plus là, en fait, dans le son que je vais vous faire écouter, enfin l'extrait,
ouais.
C'est le premier jour du club Dorothée. On est en 1987, donc vous avez 7 ans.
J'ai dû certainement être là, ouais.
Et il y a eu un problème, parce qu'une chanson est partie et Dorothée ne s'y attendait pas. Donc elle rattrape le coup.
Non, bonjour à tous, ça commence bien, c'est raté. On applaudit ? C'est le premier jour, on a le droit à l'erreur, ce n'est pas grave. Nous sommes en direct, ça se voit ? C'est non, mais faut rigoler, nous sommes là pour nous amuser. Soyez les bienvenus au club Dorothée. Est-ce que la bande est remise à zéro ? Oui ou non ?
Oui !
Bah vous, vous dites oui, je veux bien, mais est-ce qu'elle est remise à zéro, cher monsieur Dusson ? Il sait pas, moi non plus. Oui ? Alors, on ferait comme si vous n'aviez rien vu. Je vais me cacher, vous m'avez pas vu. Vous chez vous, vous ici. On recommence à zéro, d'accord ? Je me cache ! Menteur !
C'est génial. Bah, évidemment.
La danse à mes enfants,
sa maison, alors.
Bon de redécouvrir,
découvrir
tout son horizon.
Oh.
C'est bon de retrouver ses amis, réunis comme une grande
de famille.
De savoir avant tout qui sont près de vous.
C'est génial, bah, c'est mon enfance. Moi, je sais que le club Dorothée, et je pense que les gens de ma génération, ça leur parle tout autant qu'à moi, mais c'était énorme. Moi, le mercredi, elle n'avait pas me parler. Ma mère, elle était là, elle s'est dit, ça sert à rien, là, je regarde le club Dorothée. Le Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, Olivier Tom, Max et compagnie, Yaman, Goldorak, enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Jackie, Ariane, le pas de pitié pour les croissants, on était chez les fous. Avec Leïla, par exemple, Bekti, nous, on est ces enfants-là, en fait. Et on en parle très souvent. Et puis, on rêvait, on se disait avec Leïla, parce qu'à la fin du club Dorothée, il y avait tous les noms de gens dont c'était l'anniversaire. Je sais pas si elle l'avait pas fait. Elle n'avait pas donné son truc pour être dans le générique de fin. C'était énorme pour nous. Moi, j'étais un fou de Téloche. Sa cartoon, les nuls. J'ai adoré cette télé-là. Moi, je pense qu'elle fait partie de notre éducation à ma génération, c'est sûr.
On passe à votre carte blanche ?
C'était quoi, déjà ? J'ai oublié.
Je crois que c'est un extrait de Britannicus.
Ouais, c'est ça. C'est Néron, Junie. Vous avez le texte ou pas ?
Non, je l'ai pas.
Attendez, je vais le chercher dans le... Ça, vous pouvez mettre pause ?
Oui.
OK.
Jonathan Cohen est parti chercher Britannicus de Racine. Mais à mon avis, il n'a pas trouvé le texte.
Alors, Britannicus. En fait, ce qui est assez fou dans Britannicus, moi, c'est le personnage de Néron. Et Néron, on le connaît, c'est un futur tortionnaire, il va tuer sa mère, enfin bon, bref, c'est catastrophique. Mais, par contre, il prévient Junie. Il lui dit, en gros, il sait totalement qu'elle est folle amoureuse de Britannicus, que Britannicus est faux amoureux d'elle, il s'en fout. Et il dit, voilà, je vous aime bien, j'ai cherché dans tout l'Empire quelqu'un pour vous marier. Vous savez quoi, j'ai trouvé personne. Ah si, une personne, moi. Et l'autre fait, ah mais attendez, pas du tout, vous savez que Britannicus... Oui, j'ai entendu dire Britannicus, ça, oui, c'est pas mal et tout, mais quand même, moi. Et à un moment donné, il la menace, il lui dit, je sais que vous allez voir Britannicus, là, dans quelques instants. Moi, je vais être derrière. Et il lui sort cette phrase qui est exceptionnelle. J'entendrai des regards que vous croirez muets. Et je me souviens que cette phrase-là, ça m'avait fait exploser le cerveau du pouvoir, des mots du pouvoir, et en plus tout ça en vers. Allez écrire derrière. C'est pour ça que j'écris La Flamme et le Flambeau.
Alors Jonathan Cohen, bientôt dans le rôle de Néron, dans Britannicus de Racine.
C'est le meilleur rôle. En plus, je pense que c'est intéressant de mettre quelqu'un qui aime la comédie dans le rôle de Néron. C'est hilarant. Néron, c'est hilarant à jouer.
L'appel est lancé.
Ou pas, c'est pas grave.
Je peux faire une photo ?
Bien sûr.
Alors.
Je voulais qu'on se le fasse en selfie ou vous êtes avec moi là-dessus ou pas du tout ?
A priori, non.
Ah, ok, je suis solo, ok.
Ouais.
Allez. Ouais, la statue est horrible. C'est pas mon bureau.
Parce que...
En fait, c'était, on a hérité de ça avec le bureau. Et
de la statue, là ?
Ouais, mais c'est pour ça qu'on lui a mis un petit chiffon dessus.
Parce qu'elle était seule nue.
À la base, oui, on a dit, bon, on va la foutre dans le bureau gentil, mais au final, on a mis un petit foulard.
Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre devant la statue.
Ça, on la voit pas?
Ouais.
Ouais, allez. Eh, ça marche?
Allez-y, prenez-la.
C'est magique, hein?
Vous apparaissez.
Oui.
Non mais là en général j'attends qu'on dise un truc comme.
Si vous voulez que je vous dise, j'apparais, oui. On dirait que j'ai bouffé un ballon.
Ah bon?
Bah regardez. Bon après on s'en fout, oh là là. Non, j'ai bouffé une pastèque là, regardez. Sur les coins.
Oh, ça me semble pas tout à fait évident, mais.
Non, c'est pas grave. Mais de toute façon, vous avez gardé pour vous, ça. Ça fait de quoi, c'est pas là.
Je les mets sur les réseaux, mais si mais vous n'êtes pas d'accord.
Non, mais t'es là, je m'en fiche. De toute façon, c'est pas la première fois que j'aurai une tête de fruits.
Donc vous vous reconnaissez pas, là.
Si, c'est moi. Bien joué.
Merci beaucoup, Jonathan Cohen.
Merci à vous, Rebecca, c'était super.
L'âme idéale d'Alice Vial avec Jonathan Cohen et Magali Lépine Blondeau. L'âme idéale donc est en salle depuis mercredi. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et c'était avec Selim Guéribi ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco trouve les sons et la documentation. Et JB Audibert assure la bande originale de l'émission. L'équipe de Totémique prenant quelques vacances. On vous propose la réécoute d'épisodes pour la fin de l'année avant une rencontre avec Thiago Rodriguez, metteur en scène et directeur du Festival d'Avignon le 9 janvier 2026.